Vous écoutez RTL.
Et tout de suite, des secrets sur le plus grand musée du monde, le Louvre. Bonjour Bérénice Geoffroy-Schneiter.
Bonjour.
Enchantée,
bonjour.
Bienvenue. Vous êtes journaliste et critique d'art. Alors, c'est le plus vaste musée du monde. Quelles sont les mensurations du Louvre?
Alors, je ne vais peut-être pas me perdre en chiffres tout de suite, mais c'est vrai que c'est le plus grand musée du monde.
Non, mais épatez-nous.
Alors, c'est... attendez, je ne dise pas de bêtises. C'est 360 000 mètres carrés de plancher. C'est surtout plus de 500 000 œuvres, et dont seulement 38 000 sont exposées quand même dans les salles.
Ouais.
C'est 2 000 personnes qui travaillent au Louvre. Donc, je reprends cette métaphore de la bulle. C'est une bulle et c'est une ville dans la ville. C'est un microcosme, c'est un corps qui obéit à ses propres lois. C'est une immense machine théâtrale dont les coulisses sont tout aussi fascinantes que ce que l'on voit quand on la visite, quand on est sur scène, si j'ose dire. Et c'est vrai que c'était un peu une immersion, pour reprendre la métaphore aussi de votre invité, parce que pendant 6 mois, avec une dessinatrice, Lucide Piketty, on s'est baladé dans tous les endroits les plus insoupçonnés, les plus insoupçonnables du Louvre.
Oui, et les plus secrets.
Les plus secrets, et j'avais envie de dire, vous étiez très très haut sur Mars, ben nous on était sur les toits avec les pompiers, et on était dans les sous-sols, on a fait de l'archéologie au Louvre, on est allé vraiment dans les profondeurs des entrailles du Louvre. Donc c'était de l'archéologie, et c'était aussi, j'allais dire, un voyage presque dans les hautes sphères, si j'ose dire.
Et ça donne un très beau livre publié aux éditions de La Martinière qu'on va feuilleter tout de suite sur RTL. Restez avec nous.
Vous écoutez RTL.
Le Louvre, 8 siècles d'histoire mouvementée, 8 siècles de rêves de grandeur et de beauté, mais aussi de drames et de révolutions.
La curiosité est un vilain défaut.
Trésor de l'Antiquité, joyau peint à la Renaissance. Le Louvre, un palais à la croisée de l'histoire du monde.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Découvrir le plus grand musée du Louvre. Alors, le plus grand musée du monde, pardon, le Louvre. Vous savez que le Louvre d'Abu Dhabi s'apprête à ouvrir ses portes en novembre. Ce sera le premier musée universel du monde arabe. Et ça nous a justement donné envie et la curiosité de découvrir tous les derniers secrets de son modèle, le mentor, le Louvre Paris. Et pour nous guider, le doyen, exactement, la journaliste et critique d'art, Bérénice Geoffroy-Schneiter. Alors, combien de. Je sais que vous n'aimez pas trop les chiffres, mais quand même, c'est impressionnant. Après, on arrête. Combien de visiteurs chaque année au Louvre?
Alors, écoutez, le pic, c'est 8,5 millions. Maintenant, c'est un petit peu moins, malheureusement, à cause des attentats et de tout ce qui a pu, rendre un peu plus frileux les visiteurs.
Oui.
Mais c'est quand même très, très impressionnant parce que quand vous allez au Louvre, quand c'est ouvert justement au public, vous avez l'escalier d'Aru, par exemple, qui conduit à la Victoire de Samothrace. C'est une file ininterrompue. J'ai presque envie de dire de pèlerins, parce que les gens viennent du monde entier. Et quand on est en immersion comme ça pendant 6 mois au Louvre, et on a l'impression que toute la planète est au rendez-vous. C'est-à-dire que vous entendez parler chinois, russe, arabe, toutes les langues de la Terre.
Mais alors c'est fascinant, parce que c'est plus de 8 millions de visiteurs par an, et à la fois ils ont accès à quel pourcentage du musée du Louvre, vous avez eu la chance de tout parcourir?
Alors ils ont accès, alors en termes de pourcentage, je dirais qu'il y a simplement 80 000 mètres carrés qui sont d'espace ouvert au public. Donc c'est très peu, c'est moins d'un quart. Mais en même temps, c'est beaucoup, parce que comme vous le disiez vous-même, c'est une planète, c'est énorme, c'est énormément d'œuvres. Mais ce qui nous a intéressé, c'était justement de ne pas montrer ce que tout le monde voit, mais c'est de montrer l'arrière, c'est-à-dire toute cette machinerie qui fait que le Louvre peut fonctionner. Et tous ces hommes et ces femmes qui, dans l'ombre, et la lumière aussi, font qu'on fait des expositions, qu'on fait des livres, qu'on fait des spectacles au Louvre, qu'on fait toutes sortes de manifestations au-delà même de la conservation des œuvres.
Alors vous dites nous, parce qu'avec la dessinatrice Lucile Piketty, vous publiez ce beau livre aux éditions de La Martinière, dans les coulisses du musée du Louvre. Alors nous, on adore ça ici, sur RTL à la curiosité, les coulisses et les secrets. Et parmi vos découvertes, il y a par exemple un abri anti-atomique.
Alors
on va où là? On descend?
Alors on descend, mais surtout, voilà, ce qui frappe, c'est que vous avez des endroits sublimes, la Grande Galerie par exemple, parce que le Louvre c'est aussi un palais, c'est ça qui est très important, c'est une espèce de vieille demeure de famille aussi, avec des greniers, avec des escaliers qui grincent, avec des parquets qui sentent l'acoustique, mais vous avez aussi des endroits, j'ai presque envie de dire, très plein de trivialité, c'est-à-dire que toutes les gaines techniques, toutes les zones effectivement où il y a des tuyaux, où il y a des tas de choses, et on est tombé effectivement sur ce fameux abri anti-atomique qui a été construit après la Seconde Guerre mondiale. Personne n'y va, par les pompiers, après effectivement le personnel technique. Et vous avez l'impression d'être dans un sous-marin. Il y a une espèce d'énorme porte et vous rentrez dans cette espèce effectivement de sas de sécurité qui, Dieu merci, n'a jamais été utilisé, j'espère ne le sera jamais. Mais vous avez plein d'autres endroits comme ça, j'ai envie de dire insolites, qu'on n'imagine pas quand on pénètre dans cette espèce de paquebot flamboyant avec effectivement toutes ces parties Grenoble.
Par exemple, les toits, les fameux toits du musée du Louvre, ça a été longtemps les toits les plus hauts de Paris.
Oui, parce que c'était un signe urbain symbolique, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit d'être plus haut que Dieu ou plus haut que le roi. Donc si vous voulez, très longtemps, c'est un centre du pouvoir aussi, le Louvre. Notre président l'a bien montré en choisissant soigneusement d'orchestrer sa mise en scène de pouvoir, effectivement, d'intronisation au Louvre.
Quand on arrive sur les toits du Louvre,
alors c'est formidable. Moi, j'avais l'impression d'être Mary Poppins et de survoler les toits. Et avec Lucille, ça a été un des moments les plus extraordinaires
du
Louvre.
Vous aviez un parapluie volant, quelle
chance. Tout à fait, parce que là aussi, des escaliers dérobés presque. Alors, accompagnés quand même par la 43e brigade des pompiers de Paris qui font un travail absolument remarquable. Parce que, bien sûr, il faut des autorisations spéciales, il faut des badges, il faut les agents d'accueil et de surveillance qui vous encadrent. Parce qu'on ne va pas sur les toits du Louvre comme on ne va pas dans l'abri anti-atomique sans une préparation, bien évidemment. Surtout, il y a des normes de sécurité qui ne cessent, bien sûr, d'être amplifiées. Mais
il y a quoi sur ces toits? Il y a des statues, il y a un drapeau.
Il y a des statues, il y a des stations météo. Ils ont le projet aussi d'installer des ruches. Puis surtout, vous avez une vue sur les toits de Paris à tomber de beauté, sur la Comédie Française, sur la grande perspective qui va jusqu'à l'Arche de la Défense avec la grande roue. On est monté aussi, dans le livre, il y a un très joli dessin de Lucille, sur l'arc du carrousel. Donc là aussi, petit escalier en colimaçon. Et on est tout à côté des chevaux, vous savez, de l'arc du carrousel, qui ont été copiés sur les chevaux de Saint-Marc à Venise.
L'arc du carrousel, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de venir à Paris et de le voir, c'est juste en face
de la pyramide.
Un tout petit arc de triomphe,
petit arc de triomphe très mignon, très, très baroque, très, très précieux.
Bérénice Geoffroy-Schneider, il y a un autre endroit, autre lieu inaccessible au public, les cloches. Il y a des cloches au Louvre?
Alors, les cloches, c'est le jargon architectural, c'est ce qui coiffe, si vous voulez, les pavillons qui scandent le Louvre. Alors là, c'est les greniers de famille. C'est extraordinaire. Les cloches, vous arrivez dans des endroits qui échappent complètement à la muséographie du musée. Vous avez des graffitis sur les murs. Certaines cloches, comme celle de la cloche Molien dans l'aile de Non, vous avez comme la factory, j'ai envie de dire, les ateliers de tous les artistes qui ont œuvré au Louvre sous Napoléon III. Donc vous êtes dans un décor à la Piranèse avec des charpentes de bois.
C'est resté dans son jus.
C'est extraordinaire. Vous avez l'impression qu'au Louvre, il y a encore des endroits abandonnés. Enfin, je dis abandonnés, j'exagère. On les surveille aussi, mais qui échappent complètement aux normes muséographiques de ce qui est montré au public.
Dans un instant, un escalier secret, un escalier pour chevaux. Si, un souvenir de la folie des grandeurs de Napoléon III. On va le grimper dans un instant. A tout de suite les curieux sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Moi, je suis pour que chaque chose a sa place. Le Louvre à Paris, les pyramides à Ouarzazate. Est-ce que ça peut me foutre de voir un quoi, un Picasso, un Van Gogh, un Rimbaud, un Verlaine, là, que je pourrais jamais me payer en plus. C'est que c'est quand même des pièces qui vont chercher dans les 1000 à 2000 euros, ça. Ah, attention, Léo. À la limite, je pourrais me payer quoi, le radeau de la Vénus, là, de... si, de Milan, que j'aurais peut-être un escompte de 30%, qu'est-ce qu'elle a pas. Mais c'est tout!
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Florence Foresti qui va faire ses courses au musée du Louvre.
2005.
Elle est pas loin de la réalité. En tout cas, nous, c'est dans génial. La curiosité, on se balade dans les coulisses du musée du Louvre grâce à notre invitée Bérénice Geoffroy-Schneider qui publie avec la dessinatrice Lucille Piketty dans les coulisses du musée aux éditions de La Martinière. Alors, on va tenir la promesse. On avait parlé d'un escalier particulier. cet escalier de la cour Le Fuel, c'est ça?
Oui, du nom d'Hector Le Fuel, l'architecte sous Napoléon III. Ouais. C'est un escalier, pour l'instant, on n'a malheureusement pas accès à cet escalier, mais qui est en forme de fer à cheval. Et il faut vous imaginer que c'était un escalier qui était emprunté par les chevaux qui allaient dans la fameuse salle du manège. Tout ça pour vous dire que le Louvre, c'est aussi un palais, c'est une demeure historique qui va du XIIe siècle jusqu'au XXIe siècle, puisqu'il y a encore des interventions d'architectes et d'artistes contemporains. Donc c'est une espèce de chantier permanent, de work in progress, et c'est un fini les richesses du Louvre. C'est une enceinte médiévale, c'est une chapelle sous Saint-Louis, c'est des tributs de musiciens sous Henri II, c'est...
C'est-à-dire que chaque puissant a vu
voilà,
a voulu
c'est le
sa
lieu
marque.
Du pouvoir, ça a cristallisé toutes les ambitions, tous les fantasmes des architectes. Et regardez également Peille, l'architecte du Louvre, avec ses escaliers mécaniques, avec sa pyramide. Le directeur du Louvre a un très joli mot, il dit c'est le seul musée dont la porte d'entrée est une œuvre d'art. Effectivement, la pyramide, c'est une œuvre d'art.
Et François Mitterrand, pardon, je vous interromps, a voulu s'inscrire dans la lignée des monarques qui avaient chacun
totalement.
Sa façon transformée.
Et Emmanuel Macron en est le dernier représentant, c'est évident. C'est un lieu qui cristallise les ambitions, qui cristallise les rêveries. Et moi, j'ai trouvé que c'était une sorte de boîte à tiroirs, et c'est une boîte à Pandore, et toutes les histoires sont infinies.
Et puis un lieu de secret aussi, d'endroits secrets, et vous aviez très envie de nous parler de ces réserves, de ces lieux de conservation qui se trouvent au sous-sol du musée
alors,
du Louvre
alors, il y a beaucoup de réserves. Il faut vous dire que c'est un endroit sensible parce qu'on imagine que ce sont des cavernes d'Ali Baba qui sommeillent, où il ne se passe rien.
Avec de la poussière.
Et souvent, le public est frustré en disant « Oui, on nous montre à peine 10% des œuvres, des chefs-d'œuvre. Il doit y avoir des choses extraordinaires dans les réserves. »
Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces réserves?
Je vous rassure, il n'y a pas que des chefs-d'œuvre. On ne confisque pas les chefs-d'œuvre au public. Ce sont surtout des lieux d'études, ce sont des lieux où sont conservés. Alors aussi bien des tout petits tessons de céramique, par exemple, ou des amulettes égyptiennes de 2 cm carrés, mais c'est aussi des lieux où on restaure, où on dépoussière, où on fait les inventaires, où on fait l'étude aussi, par exemple, des sarcophages égyptiens. En ce moment, il y a une campagne d'études de sarcophages égyptiens, de cercueils, parce que les sarcophages c'est en pierre, les cercueils c'est en bois. Et des égyptologues, par exemple, travaillent avec des xylologues, des spécialistes du bois, pour voir comment les Égyptiens utilisaient différentes essences, comment aussi c'était une radioscopie de la société, selon qu'on était riche, on faisait tel ajout d'or, tel ajout de matériaux rares. Donc si vous voulez, c'est des lieux où également on va gérer toutes les collections, on va les photographier, on va les inventorier, on va les préparer pour une exposition, pour un prêt à l'étranger. Donc c'est un lieu qui bourdonne d'activités.
Avec des hommes et des femmes qui oui. travaillent, et on va partir à leur rencontre tout de suite sur RTL.
Septembre 2016, juin 2017, saison record pour RTL. Vous n'avez jamais été aussi nombreux à nous écouter depuis 15 ans.
Merci beaucoup.
Merci infiniment.
Merci à tous.
RTL, c'est chaque jour près de 6 600 000 auditeurs. Merci de votre confiance. Merci de votre fidélité. RTL, première radio de France. 14h-15h.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
La face cachée du musée du Louvre, c'est ce que l'on vous dévoile avec la journaliste et critique d'art Bérénice Geoffroy-Schneider. Alors dans ce Louvre absolument immense, il y a des réserves où l'on trouve des métiers incroyables, il y a des restaurateurs, des conservateurs. Il y a tous ces métiers aussi qui nous sont complètement inconnus, les socliers, les métalliers, les serruriers. Vous voulez commencer par qui ?
Alors, j'ai envie de dire, il y a 2000 personnes qui travaillent au Louvre. Moi, en tant qu'historienne de l'art, ce que je fréquentais surtout, c'était les conservateurs, qui sont ceux qui conçoivent, j'allais dire, les expositions et qui gèrent, bien évidemment, au sommet de la pyramide, c'est le cas de le dire, la gestion des œuvres. Mais il y a ce qu'on appelle les ateliers. Et les ateliers, c'est fascinant parce que c'est l'expertise made in Louvre. Ce sont tous ces métiers manuels, toutes ces petites mains, ces artisans d'art spécialisés, qui nourrissent d'ailleurs des relations très fortes avec les conservateurs et avec les régisseurs des œuvres, pour justement fabriquer les socles,
Un socliers, il fabrique les socles pour les statues.
Voilà, les montages des objets d'art, par exemple, les montages des sculptures, les montages des dessins aussi. Vous avez un département spécialisé pour les cadres également. Vous avez, par exemple, les tapissiers. Quand vous vous baladez au Louvre dans la Grande Galerie, vous avez des sièges Paulin, par exemple. Et bien, il y a des tapissiers qui les restaurent au Louvre. Vous avez également...
Un serrurier, c'est celui qui s'occupe des serrures et des clés, ça n'a rien à voir.
Sidonie, elle est obsédée par les serrures, par les poignées de porte, parce qu'il lui en manque 2-3 chez elle dans son nouvel appartement.
Il y a 12 000 clés au Louvre. Donc, vous imaginez, il y a des personnes qui sont responsables des 12 000 clés au Louvre. Et le Louvre, c'est une espèce de machine, comme je dis, fascinante, parce que avec le rapport sans arrêt entre le dedans et le dehors, le visible et l'invisible. Et là aussi, le directeur du Louvre a une formule que j'aime beaucoup. Il dit « Ceux qui ont le pouvoir au Louvre, c'est ceux qui détiennent les clés. C'est ceux qui peuvent circuler partout. » Donc effectivement, il y a ce rapport à l'œuvre d'art qui est complètement fascinant parce que c'est le rapport à l'œuvre d'art, non pas le chef-d'œuvre, mais l'œuvre dans sa fragilité, dans sa matérialité. Et tous ces gens-là, moi, ça m'a fait penser à un hôpital, sans le pathos, rassurez-vous, mais qui veille au bien-être des œuvres.
Mais ça veut dire qu'il travaille aussi sur le vieillissement, il contrôle le vieillissement, c'est quoi c'est parce alors, que Sidonie, c'est elle qui a préparé cette interview, elle m'a dit il y a un truc dingue, alors, des gens qui sont spécialistes du vieillissement, alors c'est quoi ça
reproduit alors, le vieillissement,
je vous explique, non, on n'est pas en train de fabriquer des faux vieux au Louvre.
Non,
je vous rassure, les œuvres d'archéologie grecque sont vraiment anciennes, les papyrus égyptiens sont vraiment anciens. Non, je pense que Sidonie a été frappée par l'existence des ateliers peinture et décoration. J'ai presque envie de dire, comme vous savez, les effets spéciaux qu'on trouve au cinéma. Par exemple, on leur a demandé, c'est des gens extraordinaires, quand on a refait les salles, par exemple, des objets d'art du 18e, ils ont reconstitué des boiseries, ils ont reconstitué l'écrin qui représente les œuvres, qui conserve les œuvres. Mais par exemple, il y avait un problème d'unification du socle de la Vénus de Milo, et ils ont joué sur des faux marbres pour qu'il y ait une unification du socle avec les plinthes de la salle dans laquelle était conservée la Vénus de Milo. Par exemple, si vous avez un conservateur qui veut que les supports soient pratiquement invisibles, ils vont jouer sur des raccords de peinture. Quand j'étais, par exemple, au montage de l'exposition Vermeer. Il y avait de très très belles cimaises avec des couleurs très sophistiquées. Ils vont bien évidemment mettre en forme la couleur des cimaises, mais l'avant-veille du vernissage, vous les voyez avec des pinceaux qui font les raccords des tringles métalliques pour qu'il n'y ait pas justement de hiatus visuel entre les cimaises et les tringles. Donc il y a des tas de petites choses techniques, des recettes d'atelier qui font que le Louvre, vous le voyez quand tout est beau, quand tout est terminé, quand tout est parfait, mais c'est comme avant dans la répétition d'un théâtre, et ben il y a toutes les personnes, les techniciens qui s'affairent à justement à ce que ça soit sublime et qu'on voit pas justement tous les défauts.
Tout à l'heure, dans les auditeurs ont la parole, on entendait Stéphane Carpentier et Christelle Robière parler avec des auditeurs de la baisse de féminisation dans les métiers scientifiques, les métiers technologiques et l'artisanat. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans les ateliers du Louvre?
Alors, il y a beaucoup d'historiennes de l'art. Hein. Moi, j'ai fait l'école du Louvre, je peux vous dire que c'était très, très, très féminin.
Chez les artisans,
par exemple, les chaudronniers, tout ce qui est métallerie, c'est un métier très physique, assez dangereux. Il y a beaucoup de bruit. J'appelle ça la forge de Vulcain parce qu'on est vraiment.
Quoi, le chaudronnier d'ailleurs?
Alors, ils vont transporter ils vont pas, comment dire, s'occuper des socles des œuvres qui excèdent 4 kilos, de 4 kilos à 2 tonnes. Donc effectivement, c'est un métier physique. Par contre, le montage des dessins, vous avez beaucoup de femmes. Mm-hmm. Donc ça dépend vraiment des métiers. L'atelier peinture-décoration, il n'y a qu'une seule femme, étonnamment.
Mais parmi les gardiens, parce qu'il faut des gardiens pour prendre soin de tout ça.
Ah, je suis ravie que vous parliez des gardiens, parce qu'ils sont 1200. Donc c'est, j'allais dire, la principale fonction, c'est celle qui est la mieux représentée.
Jour et nuit.
Et jour et nuit, on a assisté, alors ça, je sais que ça a rendu jaloux tous mes confrères, on a pu assister à une ronde de nuit au Louvre avec les agents d'accueil et de surveillance. C'est génial, c'est comme Belphégor. Vous vous promenez quand le Louvre est désert, il y a les bruits du Louvre, il y a le bruit des parquets, il y a l'encaustique. Vous voyez la Victoire de Samothrace avec une lampe électrique, et il y a d'un seul coup, elle est complètement théâtrale avec ses ailes majestueuses. Et puis, alors, il y a des femmes gardiens, il ne faut pas les appeler gardiens, agents d'accueil et de surveillance, parce que c'est bien loin de la caricature qui a pu être véhiculée dans la BD ou dans le cinéma. Ce sont des gens qui ont une bienveillance par rapport aux œuvres, qui tissent avec elles d'ailleurs des relations presque sentimentales, très affectives. C'est leur bébé qu'elles surveillent. Et là, il y a beaucoup de femmes, effectivement.
Merci infiniment pour ce merveilleux voyage dans les coulisses du Musée du Louvre. C'est le nom de votre livre aux éditions de La Martinière. Merci Bérénice Geoffroy-Schneider.
Merci, à bientôt. Avec des dessins de Lucile Piketty.
Vous écoutez RTL.